Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Campus Tours, 99.5 FM. On est heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir dans Acide, l'émission qui tente de dissoudre les stéréotypes de l'art contemporain. Émission un peu spéciale aujourd'hui, il n'y aura pas d'intervenant pour une interview exclusive. On s'en excuse, mais au programme, nous parlerons en première partie de la difficulté des classes précaires à accéder à la culture, mais aussi la distance qu'elles ont et qu'elles ressentent vis-à-vis du monde de la culture. On parlera aussi des expositions de l'abbaye de Fontevraud et d'un peu plus loin du Palais des Papes à Avignon. En deuxième partie d'émission, on accueille Aude qui nous parlera de ses projets. De quoi tu nous parleras ce soir ?
Eh bien, alors déjà, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler effectivement de projets que je mène et que je vais mener bientôt. Et puis, je vais vous parler aussi de deux associations qui me tiennent à cœur puisque je fais partie du CA en plus. Il s'agit des événements de Filage et de Blair Witch aussi.
Enfin, on terminera sur les dernières expositions de l'été à voir encore pendant un mois. On commence tout de suite avec une question qui revient souvent dans le débat public, la question de la non-représentativité des classes populaires dans l'art contemporain, de l'opinion aussi qu'elle porte sur lui, et parfois même de l'aversion qu'il lui procure dans certains milieux sociaux, dans certains milieux socio-professionnels. J'ai eu l'opportunité d'interviewer des personnes qui sont souvent associées à ce récit-là. J'ai travaillé dans un supermarché de campagne au-dessus d'Orléans pendant 2 mois. Donc des salariés avec une situation précaire en milieu rural, et j'ai pu interroger du coup certains de mes collègues. De manière générale, on évitait de parler de sujets de société soit par pudeur ou alors par dénigrement de la part de mes collègues. Je m'explique. Lorsqu'il y avait un débat sur un quelconque sujet politico-sociétal, certains et surtout certaines de mes collègues estimaient qu'elles n'étaient pas à même de répondre ou de donner leurs avis par manque, non pas de savoir, mais d'intelligence. Cela révélait dans un premier temps le caractère patriarcal de la conversation, car les hommes, eux, ne se faisaient pas prier pour prendre part au débat, bien que je ne fusse jamais spectateur de la chose. Mais ça révèle aussi le sentiment du rejet culturel. Ils ne se sentent pas du tout inclus dans ce processus de loisir par les expositions, par la création contemporaine. Lorsque j'ai demandé s'ils étaient consommateurs d'expositions, la réponse était généralement négative au premier abord. Néanmoins, la plupart du temps, les personnes en sont spectatrices sans même y prêter attention. À la question « Visites-tu des monuments patrimoniaux ?» et si oui, sont-ils investis par de la création contemporaine ? Là, souvent, est cette fois-ci positive dans les deux cas de figure, et même plus, elle est appréciée car elle permet pour eux de faire vivre le lieu dans lequel elle prend place. Tout ça renvoie bien sûr à l'attachement qu'ont les populations rurales au patrimoine, même si pour la plupart du temps, elles manquent aussi d'informations à son sujet. Néanmoins, il représente à lui seul l'idéal d'une France pétrifiée, même terme qu'utilisa Marine Le Pen dans son programme de campagne présidentielle. Je pense que c'est pour ça qu'elle plaît autant aussi aux classes populaires. Même terme, on en avait parlé aussi dans les émissions précédentes. Donc le discours anti-art contemporain chez les personnes interrogées prend bien, alors même qu'ils en sont consommateurs, bien que l'art contemporain au sens d'art financier soit tout à fait critiquable. De plus, il y a une certaine méconnaissance aussi des acteurs locaux et du panel local de la création contemporaine. Les résidences d'artistes et les fondations locales, ils n'en ont pas du tout connaissance. Donc faut-il être curieux par nature ou le monde de la culture doit-il faire l'effort d'avoir une communication plus poussée ? À quel prix ? La réponse reste à approfondir. Un autre point est revenu lors de ces multiples entrevues, et celui-ci m'a un peu étonné d'ailleurs. Une de mes collègues, qu'on appellera Christine, a déploré le manque d'intérêt des jeunes pour les activités culturelles. Ils s'en désintéresseraient pour elle et même seraient obnubilés par les réseaux sociaux et seulement par les réseaux sociaux. Mais elle a appuyé sur un autre point important, c'est la distance qu'elle pouvait ressentir vis-à-vis du monde de la culture, elle et ses enfants maintenant grands qui ne s'intéressent encore moins à ces activités. Faudrait-il habituer les petits à investir les institutions culturelles et à s'ouvrir à l'art contemporain ? J'estime que oui, mais pareil, à quel prix pour les classes populaires ? En effet, par exemple, 2 jours avant les élections législatives, le Palais de Tokyo avait tenu une assemblée où une vingtaine d'artistes avaient pris la parole devant un public d'aguerri. Et même dans ces rangs-là, on questionnait déjà la responsabilité du milieu de la culture. Les paroles d'un des spectateurs sont relatées dans l'édition du 5 juillet dans Libération, qui, je cite, « qui établit le langage ? Comment est-ce que l'on parle et à qui ? Il faudrait admettre que nous ne sommes pas si aimables qu'on le croit. » Un autre rajoute en citant le prix du billet d'entrée plein tarif. Vous vous rendez compte que 12 euros représentent plusieurs repas pour beaucoup de monde. Fractures économiques, sociales et culturelles sont souvent de pair. Je vous invite à lire l'italien marxiste Antonio Gramsci, fervent opposant au régime fasciste de Mussolini, qui théorisa la notion d'hégémonie culturelle, de bataille culturelle, dans lequel il explique que la révolution par le peuple doit se faire dans un premier lieu par l'aspect culturel. Il décrit la domination en fait, culturelle de la classe dirigeante, ainsi que le rôle que les pratiques quotidiennes et les croyances collectives jouent dans l'établissement des systèmes de domination. C'est aussi dans cette optique-là, d'ailleurs, que les mairies communistes, souvent au XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle, ont tenu à ouvrir le champ de la culture au milieu populaire et que ces classes populaires devaient en sortir des intellectuels qui pourront ensuite être les porte-voix des prolétaires dans les institutions politiques, gouvernementales et culturelles. Changeons de sujet, revenons à la revue des expositions. Quentin, je te laisse la parole pour des expos qui ont, elles aussi, investi des monuments patrimoniaux.
Merci beaucoup Marc. Avant de vous emmener à Fontevraud, j'aimerais vous parler rapidement d'Avignon, où je suis allé me promener il y a quelques jours. La ville, construite sur un éperon rocheux, intitulé le Rocher des Dômes, surplombant le Rhône, regorge de petites ruelles où il est intéressant de se perdre. Et comment ne pas être impressionné en arrivant tout en haut, devant le Palais des Papes, immense édifice de plus de 15 000 m², la plus grande construction gothique du Moyen-Âge. On comprend tout de suite qu'il y eut, lors de sa création, une attention particulière pour l'image de la papauté que la papauté souhaitait donner. La façade permet de prendre la mesure de l'ambition débutée par Benoît XII, qui commanda la construction du monument, terminée en moins de 20 ans par Clément VI. Les tours les plus hautes mesurent 46 mètres de haut et possèdent tout l'apanage de l'architecture défensive, mâchicoulis, crénelage au sommet. Un palais qui vise à se mettre à l'abri du roi qui, par sa puissance architecturale, exprime un pouvoir que le pape veut égaler. Et pour comprendre cette architecture, il faut rappeler qu'au XIVe siècle, le pape n'était pas vraiment en accord avec le roi. Celui-ci fit construire de l'autre côté du Rhône et en hauteur une tour à son tour afin de garder un œil sur le palais. Je vous en parle aujourd'hui car depuis plusieurs années, de nombreuses expositions temporaires d'art contemporain sont organisées et prennent place dans un certain nombre de salles du palais. Et ces projets qui permettent de mettre en avant l'art d'aujourd'hui à l'intérieur de monuments historiques permettent de sensibiliser tous les visiteurs, même les plus récalcitrants, à l'art contemporain, que ça ne plaise ou non. Une manière, dans l'absolu, de casser les clichés et les préjugés petit à petit. En règle générale, ce sont des artistes qui sont susceptibles d'être reçus positivement, connus ou non. Rappelons que le Palais des Papes, d'ailleurs, accueille chaque année dans ses murs et dans sa cour le Festival d'Avignon, la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant du monde, par le nombre de créations et de spectateurs réunis. Et cet été, l'exposition temporaire d'art contemporain au Palais des Papes met à l'honneur l'artiste mystique avec « À la vie, à la mort », visible jusqu'en janvier 2025. Il s'agit ici de la première exposition monographique de l'artiste depuis sa disparition en 2022, pour un parcours à travers plus de 300 œuvres qui retracent près de 40 ans de sa vie. Considérée comme une figure de l'art urbain, pionnière du street art français, elle critiquait un monde soumis aux diktats et au pouvoir masculin. Elle exprimait sa rage, ses désirs et sa lutte constante pour la liberté, que ce soit sur les murs de Paris ou directement sur les toiles. Ne s'agissant pas de l'exposition qui, ce mois-ci, m'a le plus intéressé, je vous invite à me suivre à quelques centaines de kilomètres pour nous retrouver à présent devant l'abbaye royale de Fontevraud, fondée au XIIe siècle, aux confins de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou. C'est un moine itinérant qui choisit le vallon de Fontevraud pour établir sa communauté, et l'abbaye doit sa puissance aux Plantagenêts et aux liens étroits avec Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre, elle y passe notamment ses dernières années. Alors le monument est classé monument historique en 1840, l'abbaye royale de Fontevraud est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en l'an 2000 avec l'ensemble du site culturel du Val-de-Loire. Abandonnée en 1792, due à la Révolution française, elle est alors transformée en prison de 1804 à 1963. Et se promener dans les différents espaces que compose la plus vaste cité monastique d'Europe, avec ses 13 hectares, serait déjà une expérience historique enrichissante que je ne pourrais que conseiller pour ceux qui n'y seraient encore jamais allés. Mais ce que je vous propose de découvrir, c'est sa toute dernière exposition temporaire visible dans le récent musée d'art moderne. Celui-ci existe depuis maintenant quelques années. Il a été inauguré en mai 2021 grâce à la donation du couple de collectionneurs Martine et Léon Klingman, ainsi qu'au soutien de la région Pays-Val de Loire. Il s'agit d'une collection de plus de 900 œuvres et sachez qu'il est possible de la découvrir de chez soi et en ligne grâce à la base de données accessible depuis le site internet de l'abbaye. Cette collection se compose de peintures, dessins, sculptures d'artistes des 19e et 20e siècles, mais également d'antiquités et d'objets d'Afrique, Océanie, Asie, Amérique. Parmi toutes ces créations, certaines sont signées de grands artistes comme Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Germaine Richier ou encore celui qui est le sujet principal de cette nouvelle exposition temporaire, Bernard Buffet. Visible jusqu'au 29 septembre, c'est plus de 70 créations de l'artiste qui sont exposées à Fontevrault. Véritable hommage à la collection du musée, elle s'intitule « Bernard Buffet, médiéval et pop ». L'exposition révèle le côté médiéval et le côté pop de l'artiste, met en lumière l'ambivalence d'un artiste témoin de son temps et nourri de références à l'histoire. Médiéval, c'est ainsi qu'est qualifié Bernard Buffet par Jean Cocteau en 1957. Sa peinture l'est tant dans les sujets qu'elle aborde, crucifixion, procès de Jeanne d'Arc, etc., que dans sa forme, format proche du retable, fond de toile griffée comme au Moyen-Âge. Et de ce point de vue-là, le choix d'exposer la peinture de Bernard Buffet dans une abbaye qui abrite les gisants d'Aliénor d'Aquitaine, Henri II et Richard Cœur de Lion est loin d'être anodin. Au contraire, il répond au désir d'inscrire l'exposition dans un cadre artistique cohérent. Il est en parallèle décrit, cet artiste, comme le plus cher des peintres d'après-guerre, dans un reportage de Paris Match. L'artiste bénéficie en effet d'une grande popularité auprès du public, en France comme à l'étranger. C'est qu'il puise aussi ses thèmes dans les objets du quotidien, les publicités ou la bande dessinée, toutes ces nouvelles formes que prend la culture du divertissement pendant les Trente Glorieuses. Pop renvoie donc à la fois à l'influence artistique du pop art dans la peinture de l'artiste et à sa notoriété croissante au cours des années. Artiste prolifique, Bernard Buffet ne s'en tient pas aux toiles et collabore avec d'autres domaines artistiques. Il réalise des décors pour la mode, le ballet, le théâtre, les illustrations pour des livres, des couvertures d'albums de musique également, ce qui accroît encore sa popularité et l'ardeur des critiques. Dès la première salle, le visiteur découvre le tableau, la crucifixion, peint en 1951 et qui forme avec la flagellation et la résurrection une sorte de triptyque de la passion du Christ. On se retrouve devant un grand format, près de 3 mètres par 5, et la composition est comparable à celle des peintures d'histoire au Moyen-Âge. Le parcours de l'exposition le montre. L'idée de la mort, thème médiéval par excellence, habite Bernard Buffet. Dans la dernière salle de l'exposition, en effet, sont présentées certaines de ses peintures comparables à des cartes de tarot. Elles renvoient au thème médiéval des transits et de l'ars moriendi, ou l'art de bien mourir. Ces peintures constituent d'ailleurs une sorte de testament artistique, puisque Bernard Buffet se suicide quelque temps après, en 1999, ne pouvant plus peindre à cause de sa maladie de Parkinson. 25 ans après sa mort, cette exposition remet son œuvre au goût du jour.
Merci Quentin. Est-ce que tu te souviens des prix pour ces... Pas du tout.
Il faut compter une petite dizaine d'euros pour l'exposition à l'abbaye de Fontevrault en tarif plein, aux alentours de 11 euros en tarif réduit. Et pour le Palais des Papes, c'est à peu de choses près identique. C'est à peu de choses près la même chose.
Très bien. Avant de passer à la deuxième partie de notre émission, je vous propose d'écouter un morceau d'un groupe tourangeau non qui s'appelle More Pain.
Just
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tours 99.5 FM dans l'émission Acide. On vient d'écouter alors deux morceaux du même groupe Non, donc Pix et More Pain, que vous pouvez retrouver prochainement au Berry Social Club à Morogues dans le 18, le 7 septembre. Et plus proche de nous, à Saint-Pierre-des-Corps, le 25 octobre prochain, au Soleil. On passe tout de suite à l'intervention d'Aude. Je voulais te poser comme question... qu'est-ce que c'est Filage, l'association dont tu nous as parlé tout à l'heure ?
Eh bien, Filage, c'est l'association du Master Culture et Médiation des Arts du Spectacle qui a lieu au Tanner. Une asso qui existe depuis, qui va fêter sa troisième année, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Donc c'est sa troisième promotion et qui fait sa rentrée. Qui a prévu pas mal d'événements dont le premier commencera jeudi 29 à la clinique à partir de 17h pour une petite ambiance un peu fin de vacances avec vide dressing, stand de créatrices, des petits trucs à manger, un DJ set. D'ailleurs, je peux dire que c'est You Get, le DJ set, puisque l'annonce est déjà sortie, donc je ne dévoile rien en exclusivité, désolée. Donc voilà. Et puis ensuite, il y aura d'autres petits événements un peu plus en septembre, quand les étudiants seront revenus. Donc là, on fait ses emplettes, vide dressing, etc. Et puis après, à partir du 13 septembre, à la Guinguette pour une soirée en lien du coup avec la rentrée, etc. Un ciné-débat. Avec en collaboration avec le Petit Rex Café, mais du coup ça je vous en parlerai après. Et puis du coup ce qui est chouette c'est que cette année Filage rentre vraiment on va dire dans l'enceinte de l'université et de sa programmation puisqu'il fait partie, enfin l'association fera partie de la programmation de l'université fait sa rentrée et même de Bouge ton campus. Donc voilà, c'est plein de choses chouettes qui viennent. Et puis, ce qui est aussi innovant, c'est que cette année, on a voulu vraiment mettre en avant toute forme d'art. Donc à la fois de la danse, du théâtre, du cinéma, de la musique, comme on a l'habitude. Et puis aussi mettre en avant des créatrices tourangeaux.
Okay. Et pourquoi le nom de Filage ? Pardon, Quentin.
Eh bien, Filage, c'est simplement comme ça qu'on appelle l'élaboration d'une pièce de théâtre.
Ok.
Voilà, Filage. On fait un filage quand on fait...
Avant la représentation.
Exactement.
Au public. C'est parfait. Est-ce que tu as d'autres projets artistiques ou à côté ?
Eh bien, alors, j'ai d'autres projets artistiques. Là, en ce moment, je suis à fond sur un gros projet qui me tient à cœur, que j'ai commencé à élaborer depuis 4 ans, donc que j'ai commencé en 2020 et qui vient tout juste de naître. C'est le Petit Rex Café, un café culturel. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y aura un événement avec filage de prévu, un ciné-débat. Donc, c'est un café type coffee shop, café de spécialité, etc. Et puis, avec la volonté d'y promouvoir de la culture, notamment de la culture tourangelle. Cette semaine, on fait une scène ouverte, donc mercredi à partir de 19h, scène ouverte pour toutes les personnes qui ont envie de s'exprimer à l'oral. Enfin, ça peut être de la poésie, du slam, des contes, etc. Même chanter au final et venir avec son instrument de musique. Dans une ambiance très chill, très cool, très mimi. Il y a une exposition aussi que vous pouvez voir de Coraline Vis qui actuellement est à Orléans mais qui a fait ses études aussi à Tours. Et voilà, l'idée c'est de promouvoir des artistes tourangello, de laisser aussi la place à des personnes qui n'ont pas forcément l'espace ou le courage de s'exprimer sur des plus grandes scènes, ou voilà, d'avoir un endroit un peu plus intimiste, un peu plus cosy, un peu plus fermé pour s'exprimer. Et puis en fait, finalement, j'avais aussi envie de créer un endroit qui ressemblait à mes envies à moi. Et puis j'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose qui plaît à pas mal de personnes. Donc je suis contente et voilà.
Il manque aussi un peu à Tours. C'est vrai qu'on n'a pas, encore ça. Du coup.
Tu trouves que ça manque un peu à Tours ?
Bah, au moins ce projet-là, quoi.
Ouais. Bah, en fait, c'est ce que je m'étais. C'est la réflexion que je m'étais faite. Il y avait les scènes ouvertes avant qu'organisait Tous en scène en lien avec les Arcades Institute. Puis les arcades ont fermé. Et puis, du coup, moi, j'avais voulu y participer, un peu la boule au ventre, un peu la peur au ventre aussi, en me disant ouais, qu'est-ce que je fais ? En face, il y aura des personnes professionnelles, ou en tout cas en voie de professionnalisation. Et je m'étais un peu chauffée avec mon meilleur ami Merlin pour aller faire une de ces scènes ouvertes un mercredi. C'était une fois par mois, premier mercredi du mois. Et en fait, quand on s'inscrit, regardez bien, il y a eu le Covid. En fait, on s'inscrit ça a été annulé parce que le Covid. Et du coup, finalement, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait chouette de pouvoir quand même avoir un endroit qui permette ça, quoi. Voilà. Et puis en fait, oui, je reparle aussi des projets que j'ai en tête. Je fais aussi partie d'une association très très chouette qui s'appelle Glairwitch, qui organise sa 3e édition du projet Glairwitch avec des ateliers, stand de créatrices, des trucs à manger aussi, de la musique évidemment. C'est du coup une association féministe qui se revendique vraiment féministe. Les personnes qui sont mises en avant sont des personnes femmes ou en minorité de genre. Alors les mecs, ils sont bienvenus bien évidemment pour venir découvrir, etc. Mais en fait, voilà, les personnes qui sont en tout cas à l'initiative sont toutes des personnes femmes et minorités de genre.
Super.
Et du coup, c'est chouette parce que ça aussi propulse des personnes justement en avant, des personnes qu'on a trop tendance à oublier ou à mettre de côté. Et puis on essaye de faire tourner aussi les personnes qui viennent à ces événements-là. Donc voilà, les trois projets, l'association, le café, qui n'est pas une association, mais en tout cas, qui a envie aussi de mettre en avant la culture tourangelle, sont les trois choses dont je voulais parler ce soir. Et qui, je pense, en cette fin de vacances scolaires, début d'automne, etc., va un peu propulser les choses, quoi.
Merci beaucoup, Aude. C'est bientôt la fin de l'émission. Dans le rush, on vous propose d'aller visiter le mois prochain certaines expositions importantes, enfin qui nous semblent importantes. Vous avez jusqu'au 29 septembre, si vous avez la foi, Judy Chicago l'une des artistes pionnières de l'art féministe qui est mise à l'honneur à l'UMA à Arles. Jusqu'au 22 septembre, redécouvrez James Whistler au Musée des Beaux-Arts de Rouen, l'artiste américain qui fut éclipsé par de nombreuses critiques en France au profit des impressionnistes. L'exposition revient sur sa carrière intransigeante et la nébuleuse de l'artiste. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, d'aller découvrir l'exposition thématique Sortir le travail de sa nuit au CCCOD à Porte de Loire, à Tours, qui a fait l'objet de notre première interview sur Acide et qui rend hommage aux travailleurs et aux travailleuses que le capitalisme invisibilise. Donc voilà, c'est la fin de notre émission, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes. On vous retrouve le mois prochain avec, on l'espère, un des représentants de la ville déléguée à la culture. On vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous.